who listen to this kind of music.
Les trans, les PD, les Gwyn et leurs alliés déviants
prennent l'antenne sur Radio Canu,
la plus queer des radios.
New Modern Blondie.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur les ondes de Radio Canu et dans l'émission de la Déprave. Une émission tout à fait spéciale pour cette nouvelle année.
Et oui, parce que ça va être une émission 100% érotique.
Et oui, 100% érotique. Alors, ce qu'on entend par érotique, c'est absolument pas les nouvelles. Enfin là, on va vous raconter des tas de nouvelles érotiques. Vous allez entendre des tas de nouvelles érotiques et ça a rien à voir avec la norme hétéro. On va parler de sexualité et identité complètement diverses et variées.
Oui, du coup, installez-vous confortablement dans votre canapé où vous voulez pour pouvoir suivre pendant une heure cette émission.
Oui, c'est ça, vous pouvez mettre l'ambiance que vous voulez, des petites bougies, lumière tamisée.
Ouais, et du coup, on va commencer en fait pour pas par un texte érotique, ça sera le seul qui ne le sera pas, mais pour donner le contexte de des textes qu'on a choisis pour dire que les textes sont pas dans la norme hétéro. Du coup, c'est un texte du fanzine Bang Bang. Du coup, c'est un fanzine qui a été fait dans les années 90 et 2000, garanti 100% pur PD. Et du coup, c'est le texte sur le miracle de l'hétérophobie qui s'appelle « Je suis malade ». Pour toutes celles qui ont fait du grec ancien, ou qui sont fait un ancien grec, dans les deux cas, pas comme moi, donc pour celles qui connaissent le grec ou sa langue, hétérophobie, ça doit vouloir dire quelque chose comme peur de l'hétéro ou encore malade des hétéros. Moi, maintenant, je le sais, je suis malade. Malade de cette société hétérosexiste, dirigée par des hétéronormés qui veulent qu'on consomme, qu'on obéisse, qu'on se conforme. Et parce que c'est pas ma norme, mais que presque partout, et trop souvent on me l'impose, alors ouais, j'ai peur. Peur de ce monde hétéro, tel qu'il se bouge, immobile, ordonné, ordonnant, discriminatoire. J'ai peur du sang versé. Et toi, l'hétéro, tu produis de la chair à canon et des hamburgers. Tu fais des hommes pour te battre, pour t'étendre, pour plus de fric ici, donc plus de pauvreté là-bas. J'ai peur de comment tu justifies tout ça, toi l'hétéro de comptoir, avec tes réflexions et ta bière à 10 balles. Peur de tes opinions sur les RMistes, les PD, les femmes, les sans-papiers, sur le faute, sur l'insécurité, de ton argent et tes idées de merde. Peur de l'importance que tu te donnes quand tu joues au père. J'ai peur, et j'en ai marre, marre de ta culture de foot, de combat, de juste prix, de violence, de tes non-sens, de ton regard limité quand tu me croises en robe ou maquillée dans la rue. Marre du ton de conquérant que tu prends pour me demander une clope, si j'ai des feuilles ou si je suis pédée. J'ai la haine de ta virilité, de ta force en marche, de l'homme sur trois qui tabasse sa femme ou ses gosses, de l'homme qui s'autorise à violer, qui tient ses putes en esclavage, de celui qui fait la guerre, de celui qui fait du fric pour le donner aux impôts et au McDo, mais jamais à la pauvresse assise devant, parce que des pauvres, décidément, il y en a trop. Ouais, connard. Comme dirait ma tante Jeanne, des pauvres, il y en a 4 milliards à ta porte. Et j'ai la haine des PD comme toi, qui s'inclinent et qui veulent un président, de ceux qui veulent plus ou qui peuvent plus ou qui peuvent plus ouvrir leur gueule, de ceux qui veulent élever des gosses, un caniche, un break Volvo et une vie rangée, tranquille, normale, comme les autres, de ces PD hétéronormés comme les autres, ces PD qui ont peur des autres, qui font pas gaffe aux autres, peur de ces PD qui baignent dans la culture, dans la vie et les idées normées, dans les cases de ta société d'hétéro, peur de ta société connard, de comment elle avance et comment elle exclut, de comment elle tient ses hommes en esclavage.
J'ai surtout peur de perdre ma liberté d'être, pas comme un hétéro, qu'on me force à travailler pour toi, à reproduire pour toi, à faire partie de cette société qu'aurait rien fait pour aider ses pauvres et ses marginaux, parce qu'elle veut pas des pauvres ni des marginaux. J'ai la haine de ta police raciste, sexiste, homophobe, qui tabasse, qui exile et qui tue, qui fait la loi sans la questionner. J'ai peur du gris de tes villes, de ta vie, de ton mariage que tu crois être une réussite. Mais c'est pas avec un seul mec que je prends mon pied, c'est avec une équipe de foot au complet. Alors ouais, je préfère rester avec mes copines, celles qui mangent pâte à viande, celles qui se mettent du rose aux joues, aux lèvres, aux yeux, dans ma vie. J'ai peur que tu veuilles m'intégrer à ton système, à ton éducation, à tes lois que je cautionne pas, que je respecte pas. J'ai peur, mais tu peux me plonger la tête et le corps tout entier dans ton eau sale et bénite. Une tente, c'est radical, c'est résistante, c'est waterproof, ça se dissout pas dans l'eau, connard. Alors, je laisse pas notre culture se noyer. Ni nos désirs, nos délires ou nos tasses de thé. Je te laisse plus parler à ma place. Je laisse plus les autres parler à ma place. Je me raconte. Je trouve des espaces et des oreilles pour ça. Je ne suis pas le PD qu'on raconte. Je ne vote pas. Je ne suis pour aucun mariage. Je fais pas partie de ta machine à bouffer du fric sur le dos des gosses qui travaillent. Après tout, c'est la santé, non? Qui tapine à 12 ans, qui crève avant d'avoir vécu. Je veux pas de pavillon en banlieue, pas de chien, pas de famille. Je gerbe sur la famille. Alors si tu comprends pas que ça me fait peur, que ça me fait chier, et que trop souvent je me sens mal à côté de toi, que trop souvent ça me donne envie de crier, si tu piges pas que je peux plus être dans le même espace que toi, qu'il soit social, culturel, ou que ce soit celui d'un ascenseur, eh ben je te hais encore plus. Marie-Pierre Précieuse.
Du coup, le message est passé et clair. Du coup, soit éteignez votre radio et faites autre chose, soit vous pouvez rester avec nous pour une heure d'émission 100% érotique. Du coup, là, on va commencer par une chanson d'une américaine qui s'appelle Candy Kane, qui est une blueswoman formidable. Et la chanson s'appelle Masturbation Blues.
Retour sur les ondes de Radio Canu dans l'émission de la Déprave pour une émission spéciale érotique pour la nouvelle année. Alors la première nouvelle qu'on va entendre, c'est une nouvelle qui raconte une danse érotique entre un trans travesti et un drag king so sexy. Sexy Sweetie Wet Tranebi laissait aller son imagination pour inventer des pas de danse incongrus. Son partenaire, un charmant écolier en short, n'était pas non plus en reste. Et à eux deux, ils enflammaient le dance floor, tandis que la décadence, squad queer renommée, se remplissait petit à petit, et que l'agitation, l'excitation et l'effervescence montante rendaient l'ambiance chaleureuse. Malgré ses bottes à talons, Tranibi enchaînait les figures périlleuses avec brio dans un rock des plus acrobatiques. Il tourna sur lui-même avec la grâce d'un sweet transvestite et à peine s'était-il arrêté qu'il se retrouva happé dans les bras de son partenaire. Il en profita pour lui saisir les bretelles, projetant ses hanches contre lui. Il sentit deux mains s'emparer de ses fesses, le décoller du sol et le renverser en arrière. C'est ainsi qu'il se retrouva agrippé à son écolier, ses jambes entourant la taille de ce dernier et ses mains tenant toujours fermement les bretelles. Après plusieurs tours enivrants, il se dégagea de l'étreinte, reprit pied sur le dance floor et avec force tira à lui par la cravate l'écolier effronté qui caressait ses cuisses revêtues de porte-jartelles et sa bouche gourmande s'empara de ses lèvres. Satisfaite du baiser mouillé et excitant échangé, Tranibi repoussa avec une moue hautaine son amant de danse encore accroché à ses lèvres qui se rattrapa in extremis à son bras, enchaîna deux tours sur lui-même en rythme et fonça sur lui. Il le saisit par le bustier, le fit tourner rapidement en le soulevant et finit par l'immobiliser, dos à lui, à la fin de la danse. Son souffle haletant et chaud chatouillant la nuque de Tranibi, ses mains sur ses hanches et son corps pressé contre son dos. Tranibi sentit l'humidité envahir son entrejambe, tandis qu'une vague de plaisir lui faisait dresser tous les poils. Quittant son amant de piste pour un ravitaillement au bar, il corrigeait la position de son bustier et de son packing quelque peu malmené dans la danse et dans l'étreinte qu'il venait de partager, quand ses yeux se figèrent sur un visage aux traits familiers mais quelque peu changé. Si sa mâchoire avait été élastique, elle aurait sans conteste touché le sol. Sa poitrine, quant à elle, se trouvait soulevée par son cœur qui battait à l'envers. Il avait devant lui un drag king so sexy, un personnage sorti tout droit de l'univers d'un polar de Scorsese. Il se tapota la joue pour se ressaisir et également constater qu'il ne rêvait pas. « Oh my God !» souffla-t-il alors qu'il s'approchait du petit groupe qui entourait le sosie d'Al Pacino. Prenant sa voix fluette de tapette distinguée, il tendit sa main à baiser et son qui « Darling, on ne nous a pas présenté. Je m'appelle Sexy Sweetie Well Tranby. Comment s'appelle donc cette charmante personne en tout point délicieuse ?»«
Moi c'est Andy. » répondit l'autre avec flegme.
Il prit la main qu'on lui présentait et y effleura à peine les lèvres, tout en défiant du regard Tranibi. « Andy, ça sonne à mon oreille comme une chanson sexy. » continua Tranibi, feignant d'ignorer le regard alléchant qu'il venait de recevoir. Pour toute réponse, Andy haussa les épaules, les mains sur la ceinture de son pantalon plissé, le chapeau baissé sur les yeux et une fleur accrochée à la veste de son costard. Andy envoya un clin d'œil discret à Tranibi, après qu'il eut surpris ses yeux pétillés à la vue de la bosse produite par son gode ceinture et reprit sa discussion avec une amie. Tranibi se dirigea vers le bar et s'y accrocha pour ne pas flancher. Il sirotait tranquillement un remontant quand il entendit les premières notes de piano et d'accordéon d'un tango bien connu. Il saisit le bras d'Andy sur son passage et ses lèvres, tout contre son oreille, l'invita à danser. Andy sourit, tandis que la musique laissait place à une voix sensuelle.
I'm not a fucking drag queen.
Il posa sa canette et rejoignit Tranibi sur le dance floor. Se faisant face, leurs corps redressés au maximum, ils entamèrent un tango diabolique. Au regard enflammé répondaient les rapprochements sans équivoque des deux corps. Andy maintenait Tranibi par la taille, dos à lui, tandis qu'ils entamaient des pas synchronisés sur le côté, leurs deux autres mains liées, les épaules bien droites. Tranibi en profita pour se frotter contre l'entrejambe dure de son cavalier. Celui-ci recula d'un pas, fit tourner le sweet transvestite pour le remettre face à lui. Ils se mirent à tourner rapidement, tenus l'un à l'autre, virevoltant, ne se quittant pas des yeux, se retenant de s'embrasser et attendant de voir qui des deux le premier faillira. Son packing pressé contre le gode ceinture d'Andy, Tranibi se sentait fondre, son string humidifié par la cyprine qu'il ne pouvait plus retenir, il mordait ses lèvres pour ne pas dévorer celles de son partenaire. Leur bouche était à peine à 5 cm l'une de l'autre, ils en sentaient le souffle chaud sur leur visage, empourpré par l'envie. Tirant encore plus à lui son truand glamour, leurs sexes se cognèrent violemment, provoquant la chute du packing de Tranibi. Ils éclatèrent de rire, et tandis que Tranibi le repoussait du pied pour éviter un accident, il murmura de sa voix de pédale sulfureuse, les lèvres posées sur l'oreille d'Andy. « Oh Andy, tu me fais tant bander que j'en perds mes couilles. » Andy rit,
puis frissonna de plaisir en sentant la langue de Tranibi pour lécher son oreille. Comme il essayait de se dégager du supplice plaisant qui le chatouillait, Tranibi le projeta contre le mur, lui saisit les deux mains et en rythme, collé à lui, se laissa glisser vers le bas. Quand son visage arriva à la hauteur de l'entrejambe, il échangea un regard plein de promesses avec Andy. Celui-ci se libéra une main et lui pressa la tête contre, puis lui attrapant les cheveux, il le remonta à la force du bras jusqu'à son visage et lui attrapa la bouche avec avidité. Tranibi en profita pour glisser sa main dans le pantalon, mais Andy la retira et, toujours accroché à sa bouche, saisit ses fesses pour la mener tout contre lui. Tranibi, saisi par l'étreinte, laissa échapper un petit cri de Queen ravie. Ah! Sentant les doigts d'Andy s'enfoncer dans sa chair, son gode dur cogner contre son diclide gonflé, sa langue pénétrer sa bouche et remplir l'antre humide, Tranibi croqua la lèvre inférieure avec délectation, tandis qu'il se libérait de l'étreinte. Il entreprit une danse sensuelle, faisant glisser ses mains le long de son corps, jouant de sinon d'excitation, humidifiant ses lèvres d'un coup de langue prononcé tout en ne quittant pas Andy des yeux. Celui-ci fit une pause, réajusta sa veste et son chapeau, se laissa prendre au jeu du regard que Tranibi avait entrepris. Il s'approcha de lui avec nonchalance et le saisit à la taille. Tranibi, provoquant, vint placer sa jambe sur l'épaule de son partenaire et, se tenant à lui, lui plongea la tête contre son sexe, alors qu'Andy se mettait à tourner, le visage collé au string humide. Reposant sa jambe à terre, Tranibi se cramponna à Andy et ils continuèrent à tourner rapidement, leurs pieds ne touchant pratiquement plus le sol, tournoyant sur eux-mêmes, bouche contre bouche, leur chaude haleine mélangée, leur front dégoulinant de sueur, ils haletaient, s'embrassaient, se mordaient. Le monde autour avait disparu, dégagé par la bulle de désir et d'excitation qu'ils s'étaient créée. Seule la musique y pénétrait, résonnant dans leur corps, alors qu'ils s'accrochaient l'un à l'autre et se déshabillaient du regard, comme de leurs mains qui s'immisçaient insidieusement et discrètement à l'intérieur des vêtements, glissaient dans le string, sous la chemise débraillée, dégrafaient le bustier, tiraient sur la braillette du pantalon plissé, griffaient la peau ou pinçaient le téton. L'humidité dégoulinait de leur corps, bouillonnant d'envie. Leurs langues se mélangeaient, se cognaient, glissaient sur leur bouche entr'ouverte. Ils ne respiraient plus, se laissaient porter par leur excitation, se nourrissant l'un de l'autre et réclamant toujours plus, toujours insatisfaits. Ils déglutissaient difficilement ce qu'il leur restait de salive. Leur regard pénétrant leur intimité les faisait rougir de plaisir qu'ils se réservaient, qu'ils imaginaient. Vertige succulent d'une danse érotique, longue ascension vers l'orgasme fantasmé, la fièvre les tenait. Ils exultaient, front pressé, mains agrippées à ce qu'elles trouvaient pour ne pas arracher tous les vêtements, dernier sursaut de pudeur en pleine indécence. Ils suffoquaient, brûlant de désir, torturés par leur plaisir. A fucking drag queen. I don't wear foot long lashes. Don't wear a pound of makeup. Or 17 tiaras. I don't want your $5 before the song is over. Don't want your how's it going, man? No, 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 no. Miss Squires will do nicely. Cause I'm not a fucking drag queen. So please don't be so rude. I'll break your fucking legs, sir. And then I'll peer away while I mend my transgender heart. Can't you just say yes to and she and her and sister to my tender transgender. Ils mirent un temps avant de réaliser que la chanson était finie. Ils se détachèrent lentement l'un de l'autre. Tranibi, tremblant, plongea la main dans sa botte gauche et en ressortit un emballage qu'il glissa dans la main d'Andy en lui susurrant à l'oreille sensuellement. « Dis-moi oui, Andy. » Et partit en chantonnant en direction du bar. Quand Andy ouvrit la main, il découvrit un préservatif avec une étiquette où il était écrit « From sexy sweetie wet Tranibi to Andy, personal message, please. » Fuck me.
Et voilà, de retour sur Radio Canu pour cette émission érotique. Donc on enchaîne direct avec un texte qui est dans la brochure GWIX, une brochure de réduction des risques en direction des GWIN et de celles qui font du sexe avec les femmes. Et du coup, c'est un texte de Gaëlle Robert sur l'anus. Aujourd'hui, après un bon lavage de cerveau et de rectum, enculé, pour moi, ce n'est plus une insulte, c'est synonyme de plaisir. La sodomie, dans la mesure où je la choisis, désir, n'est plus une pratique humiliante, douloureuse, perverse. C'est tout l'inverse. Quand un chanteur de rap gueule, les fachos c'est des enculés. Quand dans une manif j'entends « un tel est un enculé » ou des étudiants dire qu'ils vont enculer le politicard marionnette de service, j'ai franchement la rage. Je me dis que non seulement dans leur bouche c'est une insulte qui me laisse penser qu'ils ont une piètre idée de l'homosexualité ou de cette pratique sexuelle, mais encore ça m'agresse personnellement dans ma chair et jusqu'au fond de mon trou du cul même. Ces gars-là insultent de fait tous et toutes les enculés du monde, donc ils m'insultent en tant que bi, ravie de jouir de la sodomie. Concrètement, l'anus c'est chouette. Par exemple, c'est si agréable, toute seule dans mon pieu avec mes doigts ou autres, de prendre le temps de jouer avec ce que je considère maintenant comme mon deuxième sexe. D'ailleurs, depuis que j'ai appris à prendre du plaisir avec, je délaisse quelque peu mon premier sexe. Laissez tomber, le côté c'est sale, fermé, il y a du caca des fois au bout. Ça fait mal. Détendez-vous et soyez certaine que l'anus permet un potentiel de plaisir très élevé. N'hésitez pas à utiliser du gel, si ce n'est plus agréable et facile avec, et caressez-vous du bout des doigts le contour de l'anus. Merveilleuse. Puis enfoncez doucement ou non un doigt aussi loin que vous puissiez et que cela reste agréable. Ondulez les doigts que vous pouvez essayer avec deux ou plus. Ondulez de tout votre corps. Vous pouvez vous caresser le vagin et ou le clitoris si vous en avez. Sinon, caressez-vous la croupe par exemple en même temps. En ce moment, ce qui me procure le plus de plaisir et de détente après, c'est de m'allonger sur le ventre, le bras gauche qui passe sur les fesses, et avec le majeur, doigt qui sert justement à signifier enculé quand il est levé, dans le trou du cul. L'index et l'annulaire dans le vagin, le bras droit sous le ventre, la main droite ondulant sur les doigts de la main gauche, et la paume ondulant sur mon clito. Et là, je ne saurais pas décrire l'inclinaison de mes doigts qui fait que intensément, je jouis. Il manque des mots, et encore des mots, pour exprimer la variété de ce que je ressens. Les plaisirs anaux, ça se cultive.
Eh bien, merci pour cette petite lecture pratique sur l'anus et de tout le plaisir qu'on peut ressentir avec. On va enchaîner maintenant sur une chanson qui s'appelle « Masturbation ». Et oui, encore. Et qui est faite par Viscéralement Déviant, qui est un tout nouveau groupe de hip-hop de Lyon.
La moiteur de mon caleçon, je m'adosse au mur soulagé, je remonte mon pantalon et je m'en vais. Quand ta libido guide ton cerveau, tu apprends à branler plus vite que Z de Zorro. Quand ta libido guide ton cerveau, tu apprends à branler plus vite que Z de Zorro. Ambiance pérave de chiottes publiques en poule pété, papier absent. La porte à guet n'a plus de loquet, tant pis. Pas le temps d'être pudique. Les besoins sont pressants et l'envie lubrique. Abstraction du décor pour un corps à corps. Solitaire, solitaire de mes sens en dessus, dessous. Je dégaine mes doigts, oublie l'endroit et m'octroie ce moment impunément. Rangeant Lucky Luke du côté des débutants. En toute indécence, j'augmente la cadence. Respiration accélérée, cri étouffé. Je cherche un truc où m'accrocher. J'agrippe les chiottes pour pas tomber. Quand ta libido guide ton cerveau, tu apprends à te branler plus vite que Z de Zorro. Quand ta libido guide ton cerveau, tu apprends à te branler plus vite que Z de Zorro. Faut garder le rythme des nids, j'ai planché, fait chier, faut souffler, pause.
c'est fait. Je reprends plus vite, plus violemment. Mon bras crispé par l'effort, je tiens. Je pense au réconfort prochain. Récompense de mon corps contenté par ses attentes rassasiées. Mes muscles prêts à craquer, je sens l'orgasme monter. Mon sexe humidifié fait glisser mes doigts sur mon petit clit gonflé. Tu apprends à te branler plus vite que Z de Zorro. Quand ta libido guide ton cerveau, tu apprends à te branler plus vite que Z de Zorro. Quand ta libido guide ton cerveau, tu apprends à te branler plus vite que Z de Zorro. Quand ta libido guide ton cerveau, tu apprends à te branler plus vite que Z de Zorro. Surtout ne pas s'arrêter, même si les pulsations me transpercent la peau et le sang me noie le cerveau. Souffle prolongé avant apnée pour pas crier. J'accélère une dernière fois. Je sais que ça me mènera tout droit. Totale décontraction. Dernier spasme de mon diclite dans la moiteur de mon caleçon. Je m'adosse au mur soulagé. Je remonte mon pantalon et je m'en vais. Quand ta libido guide ton cerveau, tu apprends à te branler plus vite que Z de Zorro. Quand ta libido guide ton cerveau, tu apprends à te branler plus vite que Z de Zorro. Quand ta libido guide ton cerveau, tu apprends à te branler plus vite que Z de Zorro. Quand ta libido guide ton cerveau, tu apprends à te branler plus vite que Z de Zorro.
De retour sur les ondes de Radio Canu dans l'émission de la Déprave, émission spécialement érotique. Donc, ah oui, petite précision sur le groupe Viscéralement Déviant qui est constitué d'une gouine et d'un trans.
Là, on va passer à un petit extrait d'un film pédagogique sur le point G et l'éjaculation féminine. Du coup, c'est par l'idée de Deborah Sundahl. Et du coup, elle présente un programme d'éducation sexuelle pour les femmes et leurs partenaires. Et voilà, c'est le descriptif du DVD. Et du coup, ça va être très court, mais donc c'est un petit moment avec elle.
Bienvenue à l'atelier sur l'éjaculation féminine. Je suis très heureuse d'être avec vous ici aujourd'hui. Dans cet atelier, je vais vous en dire un peu plus sur ce qu'est exactement le point G. Et ensuite, nous allons trouver notre point G. Pour que vous puissiez le voir, le visualiser et apprendre à le stimuler. Parce que lorsque vous stimulez le point G, vous sécrétez le fluide de l'éjaculat et vous pouvez éjaculer. Le point G entoure l'entrée de l'urètre. Vous pouvez trouver l'urètre. Et si vous décrivez des cercles avec votre doigt autour de l'urètre, vous mettez votre doigt à l'intérieur du vagin. Ok, vous le sentez? Vous sentez l'estrie sur le corps du point G?
Ok. Vous pouvez
écarter un peu les grandes lèvres. Un peu plus écarté. Voilà. Et si vous utilisez vos muscles et que vous poussez, vous pouvez voir un petit peu le point G juste là. Essayez à nouveau de pousser. Vous pouvez le voir. C'est cette petite bosse qui apparaît ici. Vous pouvez mettre votre doigt à l'intérieur et voir si vous sentez le corps du point G. Vous sentez quelque chose? Vous le sentez? Quelle sensation avez-vous?
Donc de retour sur les ondes de Radio Canu, on espère que vous avez pu faire le côté pratique en même temps qu'elle l'expliquait. On va maintenant passer à une nouvelle qui parle de baise et de politique à la fois. Ma main enserrée par ta chatte, mes doigts cette fois encore ne seront pas entourés de latex noir. Tu es de feu et de cyprine. Instantanément, je sens cette épaisse partie de chair à l'intérieur de ta chatte avec laquelle je m'amuse. Mouvements saccadés d'avant en arrière qui viennent cogner contre ta vessie, cette danse qui me rend dingue. Je suis trempé. Mon diclite tendu dans un appel, tes doigts ramenés à ta bouche, mon jus qui coulait le long de mes cuisses. Tu me fixes, tu les lèches et je pars. Toi, tu es loin, m'appelant de mon prénom. Tu me regardes avec cet air de défi qui me donne envie de te faire mal. Tu prends mon bras comme une invitation à la dureté de mon poing dans ton sexe gonflé. Tu joues. Tes yeux qui m'intiment à ne plus bouger. Je sais que si je le fais, j'aurai mal. Trop mal pour que ce soit supportable. Et ce sera délicieux. Cette lutte entre nous sera exquise, on le sait tous les deux. Je n'en peux plus. Mes pensées divaguent, je suis trempé. La chambre sent nos sexes chauds et impatients. Je reviens dans ta chatte, ouverte aux promesses de nos mains, de tes doigts qui glissent sur ton clitoris pour te branler vivement. Ce cri intense, audacieux et surprenant, dans lequel tu trempes les draps en un orgasme qui déchirerait le ciel. Nos étoiles sont là, autour de nos corps, assommés de jouissance. Encore. Encore une fois où l'on se jouera de nos histoires, comme autant de clés pour en jouir. C'est cette structure infinie où l'on se déploie ensemble, où l'on découvre ses plaisirs innommables, à base de sexe, d'éjaculat, de griffures et de cris. Nos peaux, leurs grains et leurs couleurs, et nos rôles modulables de masculinité à chatte qui bâtissent ces identités qui nous sont propres. Je veux, je veux. Je veux voir perler les gouttes de ton sang du haut de tes omoplates au creux de tes reins, poser des aiguilles dans ta peau dure et résistante à mes caresses, aussi violentes soient-elles que tu interpelles, telles quelles. Je veux encore du hip-hop en fond de nos scènes et ses flots sous nos peaux lorsque tout devient plus réel, palpable, infini. J'écris et je ressens encore nos corps, chauds et trempés de sueur, celle qui n'a jamais perlé à ce point pour quelqu'un d'autre, chaque fois comme une première fois, et ces gouttes de sang qui dessinent maintenant des barreaux sur ta peau. Je vais mourir, je vais mourir, fais-moi jouir. Ensemble, nous détruisons les frontières de nos terres que d'autres ont voulu coloniser, par amour, passion, par leur nécessité de faire perdurer les traditions. Chaque corps a sa place, chaque membre dans son rang. Ta chatte, ma chatte, tes seins, mes cicatrices. Nos corps morcelés puis réunifiés qui s'assemblent comme des Legos qu'on n'aurait pas pu imaginer. Nos corps politiques, nos postures plus encore. Chargés de leur histoire, qui loin de les encombrer nous rend plus forts. Est-ce cela que l'on nomme queer ? Je te veux tout entière, et que tu hurles à la face du monde, ce PD a une chatte et il se trouve que c'est mon mec. En métaculture, en métalecture, les normes sont trop étroites pour imaginer nos réalités. Il se trouve que l'autre face de la réalité, c'est que cette indécence serait vite remise à sa place, celle que je, tu, il nous impose. Et c'est pourquoi, pour être vivants dans nos corps tels qu'on les a conçus, décolonisés, revalorisés, nous avons aussi appris à nous battre. Corps historique, pas en lutte contre, mais pour ce droit à jouir de ce que l'on est et de ce que l'on fera advenir.
Merci pour cette lecture. On va tout de suite enchaîner. Je vous en dis pas plus.
Pour l'émission érotique de La Déprave, j'ai choisi de vous lire des extraits d'un roman qui s'appelle La Laisse. J'ai choisi ce bouquin parce que la question des sexualités SM m'interpelle, et aussi le regard qu'on porte dessus. Parce que souvent, je trouve que quand on entend parler de SM, on pense soumission, domination, douleur, voire souffrance. Pourtant, il me semble vraiment que ce jeu de pouvoir-là, la plupart du temps, il n'a qu'une finalité, c'est le plaisir. Alors un des aspects qui, pour moi, me paraît intéressant dans ce type de relation, c'est par exemple, pour la personne soumise, l'apprentissage d'une position où on lâche prise, ou aussi sentir appréhender et apprivoiser ses limites. Et pour la personne dominante, apprendre à gérer le fait d'être responsable du plaisir de l'autre et de son bien-être dans ce délire-là, de rester attentionné et de rester à l'écoute. Donc pour moi, l'avantage des relations SM, c'est de contractualiser ces relations, c'est de verbaliser, c'est d'organiser et c'est de prendre en compte les désirs énoncés par chacune. Et pour moi, c'est comme ça que la relation colle beaucoup plus à nos envies que dans une relation où on mise tout sur le spontané, ou pire encore, on mise sur un contrat qui n'en est pas un, comme le mariage, par exemple. Comme je vous disais, La Laisse, c'est un roman qui raconte une relation SM entre deux femmes. Ah oui, d'abord, le roman, il est raconté du point de vue de Chris, la soumise. Et là où on en est dans le bouquin, c'est leur deuxième rencontre physique, mais elles ont eu beaucoup d'échanges par courrier. Chris, elle connaît pas l'apparence physique de sa dominante. Voilà. Pour ma seconde visite, le bandeau était de nouveau sur le palier, quoique sans message. Et sur son ordre, je redescendis les marches en arrière. Comme j'ôtais mes vêtements, elle me dit « À l'avenir, il ne me sera pas nécessaire d'assister aux préliminaires. Tu pourras mettre le bandeau toute seule, descendre les marches, etc. jusqu'à ce que je t'appelle. Une fois à l'intérieur de l'appartement, tu déshabilleras immédiatement et tu attendras patiemment les prochaines instructions. Ne t'attends pas à ce que je sois attentive à chacun de tes mouvements. Parfois, je te ferai patienter. Ne t'assieds pas, ne t'accroupis pas, ni ne fais quoi que ce soit sans ma permission expresse. Pas seulement lorsque tu pénètres ici, mais pendant toute la durée de ton séjour en ma compagnie. » J'étais étendue sur le canapé, les mains liées par les mêmes sangles souples, les fesses nues, la jupe courte qu'elle m'avait ordonnée de porter remontée autour des hanches. Elle promenait l'extrémité du fouet d'une main nonchalante, de haut en bas, de ma fente, tout en faisant l'inventaire des beautés et des imperfections de mon corps. Quelle douceur, quelle blancheur, quelle invitation. Extrême propreté, extrême douceur, extrême flexibilité. Quelques légers coups de fouet. Peut-être un peu rouge maintenant, mais très lisse, très accueillante. Elle me touchait. Très timide. Quelle abondance, et poisseuse, et odorante. Elle me fit porter la main à mon visage. « Je ne sens rien, » dis-je. Mais je n'en étais pas sûre. Peut-être étais-je en train de perdre la raison. Peut-être était-ce cela que les autres appelaient une odeur. Très abondante, très chaude, très odorante. Elle se pencha, m'embrassa, avant de me mordre. « Aïe !» criai-je. « Douce, chaude, parfumée, n'est-ce pas ?» Silence. « Coup de fouet, n'est-ce pas ?» Oui. Oui quoi ? Coup de fouet. Très parfumée. Si douce, si blanche. Coup de fouet. Si accueillante. Tu adores lorsque je fais ceci. N'est-ce pas, Chris ? Oui. Et puis-je savoir pourquoi tu aimes ceci ? J'avais beaucoup repensé à ce sujet, mais sans trouver de réponse. Je ne sais pas. Un coup sec. Bien sûr que tu le sais. Ah et non, je ne sais pas. Un coup sec. Pourquoi, Chris ? Parce que mes parents ne m'ont jamais donné une fessée ? Coup de fouet. Parce que je désire être punie pour coucher avec des femmes ? Coup de fouet. Parce que si c'est vous qui prenez la décision, je n'ai pas besoin de me sentir coupable ? Coup de fouet. Parce que je suis une salope dérangée ? Coup de fouet. Parce que je suis amoureuse de vous ? Coup de fouet. Parce que j'ignore ce qu'est l'amour ? Un coup, un deuxième, un troisième. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Les larmes me montaient aux yeux. Lorsque j'eus fini de pleurer, elle me fit prendre le couloir pour m'amener à un lit. J'étais étendue sur le dos, les bras attachés en croix. Donc après ce premier extrait, elles n'avaient pas encore élaboré leur contrat. C'est qu'une fois qu'elles ont déjà entamé un processus de relation, qu'elles établissent les règles de cette relation. Et du coup, maintenant, je vais vous lire un extrait sur l'élaboration de ce contrat. J'avais tellement pensé à elle que me retrouver en sa compagnie ne me paraissait plus étrange. C'était l'endroit où je me levais tous les soirs dans mon lit, une fois les yeux fermés. Et pas seulement la nuit, dans la journée, chaque fois que je fermais les yeux pour prendre un petit congé des choses du monde. « Je suis heureuse d'être ici, » dis-je. « Tu m'as manqué. » « Bien sûr. » « Ce n'est pas que je n'ai pas pensé à toi, tu sais. J'ai réécrit cette lettre plusieurs fois, mais j'avais peur. » « Tu avais raison d'avoir peur. » Un contrat, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas s'en dédire. Tu peux demander à le renégocier, bien sûr, mais je ne suis pas forcée d'accepter. Même dans ce cas, il y a des pénalités. Quel genre de pénalités ? Si c'est ce qui te tracasse, tu ne devrais pas être ici. Ce n'est pas cela, quoique ma raison me dise le contraire. Du moins, si j'en parlais à quelqu'un d'autre, il me dirait que ça devrait me tracasser. Il m'affirmerait que je suis folle d'envisager une telle chose. C'est peut-être ce qui explique que tu as pris si longtemps pour découvrir ta véritable nature. Ma vraie nature ? Était-ce bien cela, ma vraie nature ? Ou bien des vacances loin de ce vrai moi ? Je n'ai jamais rencontré personne qui se soit engagé dans une telle voie. Certaines de tes amies au moins l'ont fait. Tu es dingue. Ne me parle pas sur ce ton. Le fouet s'abattit sur ma gorge. Excuse-moi. Elles ne t'en ont certainement pas parlé, je suppose. Nous parlons de tout avec mes amis. Vraiment ? Tu aimes à penser que tu n'es pas comme les autres, Chris ? Mais c'est faux. Se pouvait-il qu'il existât un monde quelque part dont tout le monde connaissait la réalité sauf moi ? Se pouvait-il que certaines de mes amies se soient agenouillées de la même façon que moi, devant elle ou devant une personne qu'elle connaissait ? Cette pensée était insupportable, non seulement parce qu'elle impliquait que toutes celles que je connaissais m'avaient trompée, mais aussi parce que si j'avais ignoré ça, il y avait certainement une foule d'autres choses que j'ignorais. Mais elle était aussi rassurante, parce qu'elle signifiait que ce que je vivais n'était pas dingue, mais à la portée de n'importe qui. J'ai eu un grand nombre de réponses à mon annonce, affirma-t-elle. Je m'étais posé la question. On trouve des esclaves à la pelle, il fallait que je décide avec soin. Tandis qu'elle parlait, elle était en train de fixer des pinces aux pointes de mes seins. D'après ce que je savais, elle devait serrer très fort pour ne pas se détacher. Suis-je la seule que tu aies rencontrée ? Ou bien y en a-t-il eu d'autres ? Tu ne t'attends pas à ce que je te réponde, n'est-ce pas ? Je suffoquais sous la douleur. Bien sûr que non. Les pinces étaient reliées entre elles par une petite chaîne, et dès qu'on tirait dessus, la douleur était vive. Pourquoi moi ? L'instinct. Je reposais la tête sur le canapé, la gorge totalement offerte. Elle tapota légèrement ma pomme d'Adam, et cette espèce de chatouillis me mit sur des charbons ardents. Je la suppliais de me caresser, mais elle refusa, continuant ses curieux petits coups, de temps en temps, pressant plus fortement de la main contre ma gorge, ce qui me faisait tousser, comme si je manquais d'air, quoique de manière étrange, la sensation m'apporta comme un soulagement. Elle me repoussa de ses genoux, sa voix me parvint d'en haut. « Je reviens dans quelques minutes. Mets-toi à genoux et attends-moi. » Il est compliqué de s'agenouiller lorsqu'on a les mains liées derrière le dos, mais je réussis pourtant. Je prêtai l'oreille au bruit de ses pas. Puis, dans le lointain, un tiroir s'ouvrit. J'entendais croître, puis s'amenuisait la musique d'une voiture qui passait dans la rue. Il y avait de la musique dans l'immeuble également, des rires provenant probablement d'un escalier de secours proche. Des gens faisaient griller de la viande sur un petit barbecue. Une chasse d'eau se déclencha, un robinet sur un évier, le retour de ses pas. Quelques secondes plus tard, une impression aiguë de brûlure. Et je sentis que les pinces étaient enlevées de mes seins. Je suffoquais. La douleur s'atténuant, je pris conscience d'une autre qui naissait dans mes genoux et ne faisait que s'accentuer au fur et à mesure que je me concentrais dessus. Mais elle surprit mon mouvement lorsque je tentai de me détendre vers l'arrière une seconde et tira mes bras en arrière d'un coup sec, ce qui me fit mal, mais n'apporta ni plaisir ni apaisement. « Chris, tu es bienvenu pour établir un contrat ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. Je vais t'exposer ce qui est requis, et tu me diras si tu penses être capable de remplir chacune des clauses. À ton tour, tu exprimeras tes desiderata. Réfléchis bien. Une fois que nous serons tombés d'accord, il n'y aura plus moyen d'annuler le contrat. » Elle avait adopté un ton solennel. Il me semblait, par son vocabulaire, soit qu'elle avait soigneusement prévu le déroulement de son discours, soit qu'elle l'avait, peut-être plusieurs fois, répété. « Tu seras mon esclave 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à la date limite du contrat, le jour de la fête du travail, à minuit. » Une semaine avant le retour de la régulière. C'est cela. Tu auras ainsi le temps de te remettre des blessures physiques ou mentales que tu auras pu contracter. Et ne t'y trompe pas, tu en subiras. Ce n'est pas la douleur qui me préoccupe, mais je ne voudrais pas que mon corps soit altéré de manière permanente, de quelque façon que ce soit. Pas de piercing, ni de tatouage, pas de teinture dans les coupures. Et ce que nous faisons ne doit en aucune manière interférer avec ma vie professionnelle ou personnelle. La douleur te causera du tourment. Ce sera faillir à mes devoirs envers toi si elle ne t'en causait pas. et ce que nous ferons pourrait altérer ta personne de manière permanente et interférer avec ta vie de diverses façons que tu ne peux imaginer, même si cela ne se verra pas toujours à l'œil nu. D'accord, je voulais simplement préciser, ne dis pas d'accord avec autant de légèreté. Je tiens à ce que tu réfléchisses bien à ceci une dernière fois, avant que la possibilité de te rétracter ne t'échappe. Il faut que tu sois parfaitement consciente de tes actes. La honte et la dégradation auxquelles tu te soumettras volontairement, la douleur des actes qui te seront infligés, les humiliations que tu subiras forcément, le pathétique de tout ton être qui désire entreprendre un tel parcours doit apparaître clairement à cet instant, de manière à ce que tu ne puisses jamais prétendre, pas devant moi bien sûr, car je ne serai pas dupe, mais devant toi-même et devant quiconque à qui tu choisiras demain ou un jour de te confier, que tu n'es pas parvenu, en pleine et entière confiance, et en possession de toutes tes facultés, doté de ta capacité intacte de calculer risques et conséquences à cette décision. Je suis d'accord. Sans pression extérieure, excessive, ni influence de quelque sorte que ce soit ? Aucune. Y compris des drogues, quelles qu'elles soient, que je t'aurais administrées ou non ? Aucune drogue. Ou alcool ? Bien sûr que non. Aucune pression physique temporaire inspirée par le fait que je sois près de toi ? Aucune. À la lumière de tout ceci, quelle est ta décision raisonnée et impartiale ? Comme je te l'ai déjà dit, j'accepte les termes du contrat. En d'autres termes, tu deviens donc, pour un temps, mon esclave. Tu feras tout ce que je t'ordonnerai de faire. Éviteras de faire toutes les choses que je t'ordonnerai de ne pas faire. Participeras à tous les actes sexuels et autres que je t'imposerai. M'obéiras avec joie, en toutes circonstances, en ma présence ou non. Jusqu'à ce que... Qu'entends-tu par « en ta présence ou non » Je m'explique. Un esclave reste un esclave, que sa maîtresse soit présente physiquement ou non. C'est un état d'esprit, une façon d'être, dans laquelle le physique n'est que le corrélatif objectif de la réalité intérieure. Pour ma part, en retour, pour ton abandon et ta fidélité, je promets de ne pas t'infliger de blessures graves, de ne pas te tuer, ni de te causer de transformation corporelle ou de mal irréparable, de cesser tout acte immédiatement au cas où tu perdrais conscience, de te fournir une assistance médicale immédiate dans l'éventualité où tu en aurais besoin. Et si, à un moment donné, j'estime que tu es physiquement ou mentalement incapable de remplir ce contrat, j'y mettrai un terme. Mais il faut que tu comprennes que je serai la seule à déterminer si ce point est atteint ou non. Pas toi. Elle observa un silence. La pensée d'accomplir un acte courageux, en étant pleinement consciente de ma peur, déclenchait des vagues d'adrénaline dans tout mon être. J'ai préparé un collier que je veux que tu portes. C'est le symbole de notre accord. Il est emblématique de ton absolue soumission à ma personne. Il représente le fait que tu acceptes de te plier à tout ce que je te demanderai, sans refus ni plainte, dans les limites du contrat. Tu le porteras pendant toute la durée de notre pacte. Pas seulement lorsque tu es ici, mais tout le temps, nuit et jour, chez toi ou dans la rue. Lorsque le contrat arrivera à son terme, tu me le remettras. Il possède un petit fermoir dont je suis la seule à détenir la clé. Chaque fois que tu le verras dans le miroir, tu te souviendras que je suis ta maîtresse. Lorsque je le passerai autour de ton cou, il sera trop tard pour faire marche arrière. Elle appliqua le collier sur ma peau. Il était en métal, moderne et lourd, froid et plein d'autorité. Je mourais d'envie de le porter, de proclamer par ce symbole qui j'étais et ce que j'étais aux yeux du monde. « S'il te plaît, passe-le-moi, » dis-je. J'inclinai la tête comme pour un sacrifice. Le métal était plus souple que je l'aurais cru, car il épousa les courbes de mon cou lorsqu'elle le serra, écrasant légèrement ma pomme d'Adam. Je toussais de nouveau, sans y parvenir vraiment. Je m'obligeai à garder mon calme, à respirer par le nez. Elle en profita pour serrer un peu plus. « Elle va me tuer, » pensais-je. « Je le mérite. » Je ne vis pas des étoiles, mais le motif de l'économiseur d'écran de mon Windows. Je n'essayais pas de résister. Peut-être m'en fichais-je, après tout. Elle détendit le collier. J'entendis ensuite un petit déclic. Très bien. Comme si le son me parvenait de très loin. J'avalais de l'air. Je me rendis compte alors que je n'étais pas sur le point de mourir. que le collier ne me faisait pas mal, mais était juste un peu serré, qu'il s'adaptait confortablement aux courbes de mon cou, et une sorte de frisson brûlant me parcourut le ventre. En partie soulagement, en partie reconnaissance, en partie excitation, auquel se mêlait, étrangement, une certaine déception. Alors j'ai choisi ces extraits de la laisse, dont je vous avoue déjà un peu par goût de provocation de l'ordre moral, mais surtout parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre des relations contractualisées et des sexualités dites en marge, comme les sexualités SM. Vu la prédominance du schéma dominant, on le connaît bien, le schéma dominant, on sait que c'est papa, maman, les enfants, machin, le mariage. Le mariage qu'on nous présente comme un contrat, mais qui est en fait une espèce de série interminable de non-dits, et l'organisation légale du sexisme, de la domination des hommes sur les femmes. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que vu la prédominance écrasante de ce schéma, pour moi c'est urgent, vraiment urgent, de se construire des nouvelles images et des nouveaux modèles, que par exemple les extraits dans ce bouquin, ou que construire des relations dans un cadre SM, c'est des nouveaux modèles et des nouvelles images. Ceci dit, bien sûr, le but est de coller à ses envies personnelles, à ses propres envies, pas celles construites par notre environnement social ou le milieu qu'on fréquente. Dans cette idée, on n'est pas plus cool, plus politique ou plus libéré si on a des pratiques classées extrêmes ou marginales ou hard. Il me semble que l'objectif ici, c'est d'ouvrir nos imaginaires, d'arrêter de penser que telle ou telle pratique est trop cool, trop sale, trop humiliante ou voire trop dégueulasse, pour privilégier la question du plaisir, encore une fois, et que ce dernier nous arrive d'un bisou dans le cou ou d'une sévère humiliation, au final, on s'en fout, quoi. On s'en fout que ce soit bien ou mal, on s'en fout que ce soit moral ou pas. Ce qui compte, c'est que ce soit bon, bordel.
Retour sur Radio Canu. On espère que vous profitez bien de cette émission érotique.
Et on vient d'entendre Bikini Kill, I Like Fucking, qui est un groupe de Riot Girl des États-Unis.
Alors maintenant, je vais vous lire un extrait de d'un bouquin qui s'appelle Peau, de Dorothy Allison, qui est une américaine. Et donc c'est un essai. Ça se passe dans les années 70. Carré est la première femme que j'ai connue qui, avant 1979, utilisait un harnais avec son gode. Elle dédaignait ouvertement la sexualité type active-passive et était très attachée à ses références féministes. Elle ne semblait pas éprouver la moindre crainte d'être identifiée à un homme parce qu'elle aimait la pénétration. Elle se déclarait elle-même lesbienne, féministe, en insistant sur le terme lesbienne, et elle aimait autant me faire porter son harnais que le porter elle-même. Nous nous sommes parfois même battus pour savoir qui allait le porter en premier. Carré avait cousu son harnais avec des vieilles ceintures et des tapis élimés. Elle avait fait une sorte de doublure dans la pièce de tissu de devant qui tenait le gode qu'elle avait acheté par correspondance. Des années plus tard, lorsque j'ai vu un harnais d'esclave dans le catalogue Pleasure Chest, la première chose à laquelle j'ai pensé fut le harnais gode cousu main de Carré. La conception en était remarquablement similaire et il était plus pratique que tous les harnais que j'ai découverts par la suite. Le gode que Carré utilisait était attaché à un harnais. Trois bandes élastiques le retenaient à la base, une venant entre ses jambes et deux autres qui en serraient ses hanches. L'élastique avait tendance à se détacher d'un coup sec à chaque fois que Carré devenait trop excité. Elle avait bricolé son harnais ceinture, frustrée que l'élastique claque dès qu'elle ou sa partenaire atteignait l'orgasme. La dernière fois que c'était arrivé, Carré avait sauté hors du lit et, de fureur, avait découpé les bandes élastiques. Elle avait pris un vieux short en jean, découpé au ciseau un trou à l'entrejambe et fait passer le gode à travers le trou. Avec ce nouvel harnachement, elle avait regagné le lit, très fière de son invention. Le harnais improvisé avait merveilleusement bien marché, à part qu'il empêchait les partenaires de Carré d'accéder à son clitoris. Le jour suivant, Carré s'était assise avec ses vieilles ceintures et avait commencé à assembler l'équivalent lesbien du harnais en croix. Après que nous eûmes commencé à coucher ensemble, je lui ai rapporté un meilleur gode de Washington, mais je ne suis jamais parvenue à ce qu'elle m'en cousse un pour moi. Elle semblait penser que je l'utiliserais avec d'autres femmes. J'ai acheté mon premier godemichet et mon premier harnais à New York, plus tard cette année-là. Le gode ressemblait à celui que Carré avait acheté par correspondance des années auparavant. Et comme celui de Carré, le harnais avait tendance à se mettre en pièces dès que je l'utilisais réellement. Pire, il me pinçait et me démangeait, et je n'arrivais jamais à maintenir le gode dans la position que je voulais. En demandant autour de moi, je me suis aperçue que beaucoup des femmes qui admettaient en utiliser un rencontraient le même problème. Seules quelques-unes de mes amies en parlaient. En 1979, l'idée d'utiliser un gode était frappée d'anathème chez la majorité des lesbiennes. Être assimilée à un homme consistait la pire des insultes. Voilà. Alors là, en fait, on est un petit peu blasé parce qu'on avait plusieurs autres textes à vous lire et qu'en fait, on va manquer de temps.
Voilà, donc on va dire qu'on espère que vous avez passé une bonne émission. Et on va se quitter avec Lesbians in Ecstasy de Pleasure Principle. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Ms. Pope, please report to the principal's office.
Ms. Pope, to the principal's office. Shut the door behind you. Cigarette?
been acting up? Are you having problems at home? Don't you worry about a thing. You're safe here with me. This is my high school. And it's... It made me cream my